Bonjour Richard Châteauvert à New York.
Bonjour Paul. Écoutez, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui s'appelle Steve Kornacki, qui est le concurrent de John King. Il est sur MSNBC. Il est extraordinaire. Malheureusement, je pense que vous n'avez pas accès à MSNBC. Vous le regardez
beaucoup.
Oui,
on peut s'abonner. On peut s'abonner.
Moi, je suis abonné.
Ouais.
Parce que Steve Kornacki, c'est un nerd, premièrement. Il connaît tout. Il connaît le football collégial, tous les sports. Il adore le sport. Et il est toujours vêtu de Dockers avec une chemise et une cravate. Et il est toujours habillé pareil, tous les jours. People Magazine l'a classé comme un des hommes, à un moment donné, les plus séduisants. On ne parlait que de lui. Et il fait ses calculs, il a sa calculatrice, il fait ses calculs en temps réel à la télévision. Il est absolument extraordinaire. Il est tellement bon que NBC l'a utilisé pour faire des prédictions lors du triple championnat des courses de chevaux. On l'a utilisé l'an dernier pendant les éliminatoires de la NFL, Steve Kornacki. Alors, je vous invite à regarder plus souvent MSNBC, bien que John King soit excellent aussi.
Là. Ben moi, oui,
j'ai surtout connu Kornacki pour... il écrivait pour le site de Salon que je vais voir souvent, que je vais lire souvent, mais effectivement, je ne l'ai pas vu souvent.
On va voir l'occasion, ouais. Évidemment.
Ouais, Thérèse a une culture extraordinaire.
Extraordinaire. Pas toujours une bonne prononciation, mais une culture. Parce que là, on est passé du salon au salon.
Au salon. Excuse-moi.
Mais ça fait votre charme, Thérèse.
Ah, mais oui, c'est
vrai. Ça fait votre charme. C'est vrai.
Ben
c'est
oui.
C'est pas un reproche. Mais Richard, surtout que l'année prochaine, ça va être une grosse année d'élection. Parce que, on dit souvent à la blague, les Américains sont toujours en élection ou en campagne électorale.
Tout à fait vrai. Les Américains, on a des élections ici tous les deux ans. Il faut le rappeler, les gens ne le savent pas. Mais on a les élections de mi-mandat au Congrès et dans les législatures des 50 États américains. Donc, les hommes politiques aux États-Unis sont toujours en opération collecte de fonds. Ils sont en campagne perpétuelle, surtout les membres de la Chambre des représentants, évidemment, qui sont élus tous les deux ans. C'est tout à fait vrai. Maintenant, il y a une telle polarisation qu'on ne parle que d'élections tout le temps.
Bon, ça a l'air, Richard, que la pleine lune n'a pas une grande influence sur vous. Mais pourtant, dans une ville comme New York, vous ne voyez pas plus d'agitation dans votre quartier?
Ben, ce que je peux vous dire, que je me suis réveillé cette nuit parce que les bars chez moi ont fermé. Premièrement, il y a toujours beaucoup de bruit dans mon quartier de Greenwich Village. Et cette nuit, à 4 heures, les bars ont fermé leurs portes. Tout le monde est sorti dans la rue. Il y avait une telle énergie, Paul. Évidemment, ça m'a réveillé. Ça riait, ça chantait parce que tout le monde était bourré. Quand les gens sont bourrés, ils parlent plus fort. C'est peut-être dû à la pleine lune, mais je me rappelle que moi-même, quand je fréquentais les bars à Montréal, dans ma belle époque, il y avait toujours une énergie supplémentaire les soirs de pleine lune.
Bon. Alors là, on va plonger au cœur d'une histoire. Mais ça, c'est une histoire typiquement américaine. Ça revient de façon cyclique. Vous savez, des histoires qui impliquent des meurtres mystérieux, des morts mystérieuses, des gens riches, des gens qui ont de l'influence. Et on a tout réuni dans une histoire qui fascine l'Amérique en ce moment, Richard.
Oui, et dont on va entendre parler, qui va faire l'objet de docudrames, de films pour la télé. C'est une histoire qui ne fait que débuter. C'est l'histoire d'Alex Murda, un avocat issu d'une dynastie d'avocats dans la région située à une centaine de kilomètres à l'ouest de Charleston, en Caroline du Sud. De 1920 à 2005, pendant 85 ans, le père, le grand-père et l'arrière-grand-père d'Alex Murda ont été procureurs du ministère public dans 5 comtés. Alors, l'histoire commence début juin. Alex Murda, qui est dans la cinquantaine, découvre les corps de sa femme de 52 ans et de son fils de 22 ans dans son domaine de 7 km carrés. La mère a été atteinte de plusieurs coups de feu à l'aide d'une arme semi-automatique. Le fils a été atteint de 2 coups de feu à l'aide d'une carabine. Donc, ça laisse entendre qu'il y aurait 2 tueurs. Or, le fils assassiné faisait face à des accusations d'avoir causé la mort d'une jeune femme dans un accident de bateau. C'est en février 2019. Paul Murda était avec 5 autres jeunes dans un bateau à moteur appartenant à sa famille. Ils avaient bu toute la journée dans un domaine appartenant à la famille et le bateau a percuté un pont. Les 6 sont tombés à l'eau et il y a une jeune femme dont le corps a été découvert une semaine plus tard. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec cette histoire? On ne le sait pas. Et ça continue vendredi 3 septembre, donc 3 mois après avoir découvert les corps de sa femme et de son fils. Alex Murda a été évincé de son cabinet d'avocat, dont son frère est un des associés, parce que les associés ont découvert que Alex Murda aurait détourné des millions de dollars. Et ce qu'on a appris depuis, c'est qu'Alex Murda est accro aux opioïdes depuis 20 ans. Ça, c'est vendredi 3 septembre. Alors, le lendemain, samedi 4 septembre, Alex Murda a téléphoné au 911 affirmant qu'on venait de tenter de l'assassiner. Donc, il a dit, j'étais en train de remplacer un pneu sur mon camion. Quelqu'un est arrivé et m'a demandé si j'avais des problèmes. Et tout à coup, j'ai entendu un coup de feu. Il a été transporté à l'hôpital, mais la balle ne l'avait qu'effleuré. Il y a un homme que M. Murda connaît qui a été arrêté, Curtis Smith. Il dit, non, c'est pas ce qui est arrivé. C'est que il m'a téléphoné puis il m'a dit qu'il y avait des problèmes. Donc, lorsque je suis arrivé sur les lieux, il brandissait une arme à feu. J'ai pensé qu'il allait se suicider. On s'est chamaillé. Le coup de feu, il y a eu une décharge de coup de feu. Puis là, j'ai eu tellement peur que j'ai quitté les lieux. Donc, au début, Murda a dit, non, il a tenté de m'assassiner. Et en début de semaine dernière, il a admis que c'est lui qui avait mis sur pied le complot.
Organiser sa mort.
Il a organisé sa mort qu'il était tellement déprimé après la mort de l'assassinat de sa femme et de son fils. Donc là, il a comparu jeudi dernier devant le tribunal, menotté, cet avocat bien en vue. Et là, il a dit que la raison pour laquelle il avait organisé son propre assassinat, c'était pour que son fils survivant puisse toucher son indemnité d'assurance de 10 millions de dollars.
Oui, déjà, c'est pas... Déjà...
Alors là, il a été libéré sous une caution de 20 000 dollars seulement. Et il est parti subito dans un centre de réhabilitation d'un État voisin de la Caroline du Sud. Et là, l'autre, évidemment, Curtis Smith, l'agresseur présumé, lui aussi a été arrêté. Il a été libéré sous une caution de 20 000 $. Donc, voilà où on en est actuellement. Sauf qu'il y a eu réouverture de 3 dossiers dans cette affaire. En 2015, il y a un jeune homme de 19 ans qui a été découvert mort sur la route à peu près une dizaine de kilomètres du domaine des Murda. Et les policiers disent que dans leur enquête sur le double meurtre de Mme Murda et de son fils, ils ont découvert des informations qui les ont fait réouvrir l'enquête sur la mort de ce jeune homme, Stephen Smith. Ils ont retrouvé son corps en juillet 2015 au milieu de la rue, au milieu de la route, parce qu'il y avait eu une panne sèche. Et là, la conclusion du médecin légiste, c'est qu'il avait été victime d'un délit de fuite. Il avait une blessure à la tête. Au début, on a pensé que le jeune homme de 19 ans avait été atteint d'un coup de feu. Mais non. Et là, il y a des policiers sur les lieux qui ont dit, est-ce que c'est possible que quelqu'un soit passé à côté de lui avec une batte de baseball? Et le médecin légiste a dit, écoutez, c'est moi qui suis chargé de déterminer les causes du décès et je pense que, selon moi, c'est un délit de fuite. Mais il y a un policier qui a encore témoigné dans les mois suivant le double assassinat. Il dit, selon moi, c'est impossible que ce soit un délit de fuite parce qu'en plus, il y avait encore ses chaussures. Ses chaussures étaient les lacets n'étaient pas complètement lacés et il n'a pas perdu ses chaussures. C'est impossible. Réouverture de cette enquête. Il y a l'enquête sur la mort de la jeune fille en 2019. Là, il y a un grand jury qui enquête sur faute professionnelle des enquêteurs, disparition de preuves. Et ce n'est pas tout. La bonne de la famille Murda est morte. La bonne de la famille Murdoch est morte en 2018.
Ils ne savent pas comment.
Dans des, exactement.
Okay. Dans des circonstances. Il y a réouverture de l'enquête dans la mort de la bonne. La bonne, fait une chute, OK? Elle était à l'emploi de la famille depuis 25 ans. Elle fait une chute. Et là, ce qui est, l'acte de décès indique qu'elle est décédée de cause naturelle. Alors,
écoute, ça tombe beaucoup dans cette famille.
Mais comment ça s'appelle sur Netflix, ça, cette série-là?
C'est exactement pour la raison pour laquelle je vous en parle, parce que vous allez regarder tout ça sur Netflix dans un an ou deux. Souvenez-vous ce nom, Murdaugh. Alors, écoutez, quand la bonne est morte, Alex Murdaugh, il a recommandé un avocat au fils de la bonne défunte, et c'était un de ses amis, mais il l'aura pas dit. Il dit, écoute, allez voir cet avocat, puis poursuivez-moi. Alors, ils ont obtenu une indemnité de 500 000 $ mais ils n'ont jamais touché un seul sou.
Oh, c'est incroyable.
Peut-être que M. Murdaugh dépensait tellement d'argent pour acheter des opioïdes qu'il a empoché l'argent. On ne sait pas.
On va le savoir à la saison 2.
Exactement. Ben oui, parce que, Thérèse...
J'adore cette réaction.
Thérèse, ça, là, c'est une série sur Canal Investigation.
Ah non, c'est sûr.
Un des canaux préférés de ma femme.
Crois-moi.
Canal Investigation, parce que là, vous allez avoir une sorte de traduction. La famille Murdaugh, voilà, il était dépendant aux opioïdes. On a retrouvé ensuite, mystérieusement, la bonne qui avait fait une chute dans l'escalier.
Ah non, c'est une histoire incroyable. D'ailleurs, je peux te dire que si je suis Netflix, j'ai déjà mis la main là-dessus.
Ah, c'est sûr.
Écoutez, mais Richard aime ça aussi. Richard est très américain et il aime ça, ces séries-là. Enfin, c'est pas ces séries-là, ces histoires-là.
Ben, on aime tous ça. Qui n'aime pas ce genre d'histoire?
Il manque quelque chose.
On appelle ça un who done it. Qui a commis le meurtre?
C'est comme le comment ça s'appelait?
Le jeu Clou?
Oui,
le salon avec le colonel Plum Pudding.
Moutarde.
Le colonel Moutarde.
Mais la seule affaire qui manque là-dedans, c'est du sexe.
Ah, ben oui, écoutez, il y a peut-être du sexe. Voici un détail important. Voici un détail. Le jeune homme qui a été trouvé au milieu de la route en juillet 2015, quelques mois après son décès, sa mère a dit qu'il était en train de découvrir qu'il était gay.
Ah, ben
non, ben.
OK.
C'est ça qu'on
voulait. Je sais qu'il a dit à sa sœur jumelle qu'il avait eu une liaison avec un jeune homme.
Il avait un amant.
Et la mère a dit, je sais qui est responsable de sa mort. Et écoutez, c'est quand même dans l'enquête sur le double meurtre survenu au mois de juin qu'on a découvert des faits qui ont poussé la police à rouvrir l'enquête sur la mort de ce jeune homme en 2015. Voilà l'élément peut-être sexuel.
Et à rouvrir deux autres enquêtes.
Stéphane, ça va vous faire peut-être des sujets pour la salle des nouvelles.
Ben, je suis en train de me dire quelle complexité que de résumer cette histoire-là en 30 secondes dans mes nouvelles. Je vais laisser le soin à M. Châteauvert de nous raconter ça.
Stéphane Boucher, en 30 secondes.